donc, c'est notre cinquième séance sur les réflexions sur la tolérance. Alors, ce soir, nous allons aborder une forme originale et paradoxale d'intolérance. Parce que il semble admis que l'intolérance consiste seulement dans la contrainte exercée par un pouvoir, ou même simplement par un individu, pour imposer sa doctrine, pour imposer son opinion. Et la démocratie nous semble, à l'opposé, le régime politique qui garantit pour le mieux la tolérance, c'est-à-dire l'expression de la pluralité des opinions. Or, voilà que le philosophe Alexis de Tocqueville va nous montrer que les choses ne sont pas aussi simples. Dans son grand ouvrage, donc, de la démocratie en Amérique, que j'ai là sous les yeux, eh bien, il va nous montrer que la démocratie n'est pas nécessairement tolérante et qu'elle peut même devenir oppressive et tyrannique. Ainsi, aussi déroutant que cela puisse nous paraître, une démocratie peut se transformer en régime d'oppression. Et pour désigner cet étrange phénomène, eh bien, vous voyez que Tocqueville va recourir à une expression qui apparaît comme un oxymore, puisqu'il va parler d'une tyrannie de la majorité. Une tyrannie de la majorité. Vous voyez que donc, selon Tocqueville, la démocratie peut se transformer en tyrannie de la majorité. Et si cette transformation peut avoir lieu, c'est d'abord pour une raison très simple, que je vais résumer, mais évidemment, ça ne suffira pas. C'est-à-dire que le principe de légitimité de la démocratie, c'est le principe de souveraineté populaire. C'est le principe qui est au fondement de ces lois, de ces institutions. Eh bien, ce principe de souveraineté populaire ne peut se traduire concrètement que par le gouvernement de la majorité. Il est nécessaire d'adopter la règle de la majorité pour adopter une loi, pour élire une assemblée. Et donc, le risque est ici que cette majorité devienne un pouvoir absolu, se présente comme un pouvoir absolu qui va opprimer la minorité, qui va opprimer les minorités. Et comme l'écrit Tocqueville, alors là, vous avez les textes, hein, c'est le tout premier texte de la page 1, en haut à gauche. Il est très court. Donc, comme l'écrit Tocqueville, je lis, hein, il est de l'essence même des gouvernements démocratiques que l'empire de la majorité y soit absolu. Car en dehors de la majorité, dans les démocraties, il n'y a rien qui résiste. Voilà. C'est, je pense, le passage clé, en quelque sorte, de la démocratie en Amérique, où Tocqueville s'exprime clairement sur la question. Ou en tout cas, il annonce cette idée. Donc ici, le risque n'est pas seulement politique. Vous allez voir qu'il est également moral et intellectuel. C'est-à-dire que la majorité ne risque pas seulement d'imposer une oppression politique, elle risque également d'exercer une véritable tyrannie d'opinion. Et quand Tocqueville parle d'empire absolu de la majorité, hein, évidemment, il faut comprendre qu'il s'agit là d'un empire politique, moral et intellectuel. Et c'est cet empire absolu de la majorité qui peut engendrer donc une nouvelle forme d'intolérance et de censure. Alors évidemment, ici, vous allez voir qu'il ne s'agit pas d'une censure légale, comme celle que pouvait pratiquer une monarchie absolue, un pouvoir despotique. Non, il s'agit d'une censure plus douce, plus subtile, mais beaucoup plus efficace aussi, parce qu'elle va revenir, au fond, à exclure moralement l'individu dont l'opinion n'est pas conforme à la majorité. Mais, voyez, avant d'examiner précisément la nature de cette nouvelle forme de tyrannie, il est indispensable de présenter le projet de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique. C'est-à-dire qu'il est, je pense, nécessaire de présenter sa réflexion sur la démocratie. Ce sera le premier temps de notre réflexion. Et vous voyez que c'est en approfondissant l'examen de la démocratie que nous pourrons comprendre non seulement pourquoi elle peut engendrer un phénomène pathologique comme la tyrannie de la majorité, mais aussi comment et par quel dispositif institutionnel il sera possible d'empêcher le développement de cette pathologie. Alors, je l'annonce tout de suite tout de même, parce que je n'aurai certainement pas le temps de développer la dernière partie, mais j'en dirai deux mots. J'en dirai deux mots tout de même au passage. C'est vrai que si je veux avoir le temps d'expliquer simplement et clairement ce qu'il faut entendre par la tyrannie de la majorité, bon, je ne crois pas que dans les limites de temps que nous avons, eh bien, nous le pourrons. Mais on pourra en parler. De toute façon, ce que je vous aurais dit déjà donne une idée, si vous voulez, des solutions que Tocqueville pensera pouvoir apporter. Donc d'abord, je vais présenter le projet de Tocqueville. Dès le début de l'introduction de la démocratie en Amérique, Tocqueville annonce l'objet qui sera au cœur de son ouvrage. Vous voyez, vous lisez ici le texte qui est juste en dessous, au moins le début, je cite, « Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour aux États-Unis, ont attiré mon attention, aucun n'a plus vivement frappé mes regards que l'égalité des conditions. » Donc, c'est en allant en Amérique, en 1832, je ne sais plus exactement quand, hein, puisqu'il écrit en fait le premier tome en 1835, enfin c'est peu de temps avant. C'est en allant en Amérique que Tocqueville découvre l'objet sur lequel va se concentrer sa réflexion. Et donc, dès les premières lignes de l'ouvrage, dès l'introduction, on comprend que la démocratie ne désigne pas seulement pour Tocqueville un régime politique parmi d'autres, la démocratie, l'aristocratie, etc., etc. Il ne s'agit pas simplement d'un régime politique, mais il s'agit aussi d'une société d'un genre nouveau, et une société marquée par l'égalité des conditions, par ce que Tocqueville appelle l'égalité des conditions. Alors, qu'est-ce que Tocqueville entend par là? Si vous lisez l'introduction, je ne vais pas toute la lire, enfin, en tout cas, j'en ai extrait ici, extrait une petite partie. Hein. L'égalité des conditions, comme dit Tocqueville, c'est le fait générateur, ou il dit aussi le principe générateur, deux expressions qui reviennent constamment sous sa plume. C'est le fait générateur, le principe générateur d'un nouveau mode de société, comme celui de la nation américaine. C'est-à-dire d'un nouveau mode de société qui existe déjà, qui est bien développé déjà aux États-Unis, mais qui est appelé à s'étendre partout, notamment en Europe. Et ce principe générateur de l'égalité des conditions, comme dit Tocqueville, exerce une influence prodigieuse sur la marche de la société. Hein, c'est cette formule, vous la trouvez dans l'introduction. Hein, c'est-à-dire, je répète, ce principe générateur donc exerce une influence prodigieuse sur la marche de la société. C'est-à-dire aussi bien sur le plan politique, c'est-à-dire celui des institutions et des lois, que sur le plan des mœurs et des opinions. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'ouvrage de Tocqueville est divisé en deux tomes, en deux parties. Dans le premier tome, qui paraît en 1835, Tocqueville analyse l'influence de l'égalité des conditions sur le plan politique. Et il analyse de façon très précise les institutions des États-Unis. Là, vous avez des analyses d'ordre politique et juridique. Et puis, dans le deuxième tome, qui lui paraît 5 ans plus tard, en 1840, eh bien, il va analyser l'influence de l'égalité des conditions dans le domaine des mœurs et des idées, sur le plan social, si vous voulez. Donc, vous voyez que l'égalité des conditions, c'est le moteur de l'évolution des sociétés modernes, des sociétés démocratiques. En quel sens ? Eh bien, en ce que cette égalité met d'abord fin au mode de relation qui existait antérieurement dans la société aristocratique, société où les différences de statut, les différences de conditions, les hiérarchies étaient perçues et considérées comme naturelles et immuables. C'est-à-dire que dans la société antérieure, que Tocqueville appelle la société aristocratique, eh bien, au fond, le principe, finalement, qui organise cette société, c'est le principe hiérarchique. C'est un principe hiérarchique. Et la hiérarchie n'est pas perçue comme une hiérarchie provisoire, momentanée, accidentelle. Elle est appréhendée comme une hiérarchie immuable, naturelle. Vous voyez ? C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre un simple exemple, il va de soi, par exemple, pour les serfs de la société féodale, eh bien que les seigneurs sont seigneurs, au fond, par nature, hein, et même par droit divin, en quelque sorte, vous voyez ? C'est-à-dire que les choses sont ainsi, hein, les choses sont ainsi, et elles sont immuables. Il y a un ordre naturel immuable des choses, vous voyez ? Une hiérarchie naturelle immuable des choses. Eh bien, c'est avec ce principe aristocratique, hein, ce principe hiérarchique, que, évidemment, la société démocratique va rompre. Et la première chose qu'elle fait, ben, c'est qu'elle, je dirais, elle détruit toutes ces anciennes formes de hiérarchie. Vous voyez ? Bon. Alors, qu'est-ce que Tocqueville entend précisément par l'égalité des conditions ? Il faut tout de même expliquer la formule. Alors, un contresens à éviter. Il ne veut pas dire que tous les hommes sont ou deviennent effectivement égaux économiquement, socialement, politiquement. C'est pas ça qu'il veut dire, hein. Ça, ce serait un contresens. Il ne veut pas dire, par égalité des conditions, je répète, que les hommes sont ou vont tous devenir effectivement égaux sur tous les plans. Il ne veut pas dire qu'il n'y a pas, il n'y aura plus dans la démocratie de classe sociale. C'est pas ce qu'il dit. Il veut dire très exactement qu'avec la société démocratique, avec le développement de la société démocratique, les hommes ont désormais tous, au moins en théorie, la possibilité d'accéder à une position sociale supérieure. C'est-à-dire, plus aucune hiérarchie n'apparaît désormais comme une hiérarchie naturelle, comme une hiérarchie immuable, intangible. C'est-à-dire que, je répète, il ne s'agit pas ici de dire que tous les hommes sont effectivement égaux, mais l'égalité, si vous voulez, c'est l'horizon imaginaire, en quelque sorte, qui caractérise ici la société démocratique. C'est-à-dire que les hommes se disent que, bon, bien sûr, ils sont peut-être au bas de l'échelle, mais que peut-être leurs enfants pourront accéder au haut de l'échelle, si vous voulez. Voilà, c'est ça l'idée, hein. C'est-à-dire qu'au fond, ce que je veux dire, c'est que s'il est vrai qu'une société démocratique peut comporter des inégalités très importantes, celles-ci ne se présentent pas comme des inégalités fondées en nature, comme celles que vous aviez avec l'ordre féodal. C'est-à-dire que les inégalités se présentent comme des inégalités accidentelles, non pas naturelles, accidentelles. C'est-à-dire qu'elles pourraient être modifiées. Et pour le dire autrement, je dirais les choses de façon peut-être plus simple en le disant comme ça, la société démocratique, eh bien, elle autorise tout simplement la mobilité sociale de tous les individus. Il n'est pas interdit de rêver qu'on puisse un jour devenir PDG. Voilà, si vous voulez, pour dire les choses de façon très simple, hein. Bon. Mais ce qu'observe précisément Tocqueville en Amérique, ce n'est pas exactement l'égalité des conditions, parce que c'est un principe, si vous voulez, qui engendre des effets. Ce principe en tant que tel, on ne le voit pas, on en voit les effets. Donc ce que Tocqueville observe, ce n'est pas exactement le principe d'égalité des conditions, ce sont les conséquences qui sont engendrés par ce principe, générateur. Et au fond, ce qu'observe en quelque sorte Tocqueville dans cette société américaine, c'est la révolution démocratique. Le terme qu'il emploie ici, c'est la révolution démocratique. Et qu'est-ce que c'est que la révolution démocratique? Ce n'est pas autre chose que le développement des conséquences engendrées par le principe d'égalité des conditions. Vous voyez, ce sont les conséquences qui sont engendrées par ce principe. Voilà, c'est ça la révolution démocratique. Alors les révolutions démocratiques, on va voir qu'aux États-Unis, elle est claire, elle est visible. Elle a déjà commencé dans les sociétés européennes. Hein. Cette révolution démocratique, elle se produit dans ces sociétés, sauf qu'elle est beaucoup moins visible, pour des raisons que nous expliquerons. Donc quand Tocqueville parle de la révolution démocratique, il s'agit, si vous voulez, d'un développement nécessaire, irrésistible, irréversible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas stopper le processus d'égalisation des conditions. On ne peut pas le stopper, on ne peut pas l'arrêter. C'est la loi d'histoire, si vous voulez. C'est la loi de l'histoire. C'est un principe qui s'étend dans l'histoire à toutes les sociétés. Toutes les sociétés, hein, eh bien, connaissent, finalement, sont soumises à ce principe. Donc on ne peut pas arrêter la révolution démocratique, car c'est un processus qui s'accomplit, quoi que fassent les hommes, pour l'empêcher ou pour l'accélérer. Hein. Quoi que fassent les hommes, c'est un principe qui s'accomplit. Et d'ailleurs, Tocqueville, dans sa préface, n'hésite pas à caractériser ce processus comme un fait providentiel. Comme un fait providentiel. Alors pourquoi employer cette expression? Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Ben, tout simplement pour montrer qu'on a ici affaire à un processus qui échappe à la volonté des hommes. C'est un processus qui échappe à l'initiative des hommes, qui s'impose à eux. Alors, maintenant, évidemment, qu'il s'agisse là d'un processus inévitable, d'un processus irréversible, ça ne veut pas dire pour autant que la liberté humaine n'a aucun rôle à jouer. La liberté humaine ne peut pas s'opposer, si vous voulez, à ce processus, mais elle ne peut pas empêcher, si vous voulez, le cours de l'histoire, c'est-à-dire l'extension de la démocratie, mais il dépend de la liberté humaine, en revanche, de lutter contre les maux que la démocratie peut engendrer. Voilà exactement en quoi consiste, au fond, l'initiative que les hommes peuvent avoir. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas arrêter le cours de l'histoire, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas revenir à la société aristocratique. Hein, la société démocratique s'impose nécessairement partout. L'égalité des conditions s'impose partout. La seule chose qu'il faut tenter de faire, essayer de faire, c'est que la démocratie ne produise pas de la pathologie, comme la tyrannie de la majorité. Et effectivement, c'est ça la question. Hein, c'est-à-dire que la démocratie peut engendrer une nouvelle pathologie, hein, qui s'appelle cette fameuse tyrannie de la majorité. Alors pour lutter contre celle-ci, eh bien, il va s'avérer nécessaire, comme l'écrit d'ailleurs Tocqueville dans l'introduction, d'inventer, ce sont ces mots, hein, d'inventer une science politique nouvelle. Alors, c'est le troisième texte, si vous voulez, que vous avez sur la colonne de gauche. Hein. Et j'ai souligné d'ailleurs la dernière phrase, ici, que je relis. Il faut, dit Tocqueville, une science politique nouvelle à un monde tout nouveau. Le monde tout nouveau, c'est le monde qui va être façonné par le principe d'égalité des conditions. Il faut une science politique nouvelle à un monde tout nouveau. Et cette démocratie moderne n'a rien à voir avec ce que les anciens appelaient la démocratie. La démocratie antique, la démocratie des Grecs, elle reposait sur un principe hiérarchique. Parce que, si vous voulez, par exemple, seuls quelques hommes étaient citoyens. Vous voyez ? Les hommes n'étaient pas tous citoyens en Grèce. Hein. Il y avait des esclaves. Vous voyez ? Donc la démocratie athénienne fonctionnait finalement sur un principe hiérarchique, c'est-à-dire qu'elle faisait partie d'une société aristocratique, au sens où l'entend Tocqueville. Donc la démocratie moderne, hein, qui, vous voyez, repose sur le principe d'égalité des conditions, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'il va falloir, ici, élaborer une science politique nouvelle. Bon, et alors, quelle sera la tâche de cette science politique nouvelle? Je lis la formule qui est tout au début de ce texte. Il va s'agir d'instruire la démocratie. Il s'agira d'instruire la démocratie. Et puis je relève certaines formules. Il s'agira de purifier ses mœurs, de régler ses mouvements. Donc, au fond, il va s'agir d'élaborer une science qui permette à la démocratie d'accéder à une claire conscience de ses vrais intérêts. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut, en quelque sorte, bon, je vais utiliser une formule un peu raccourcie, il faut, en quelque sorte, aider la démocratie à devenir intelligente. Voilà. Il faut qu'elle ait une claire conscience de ses vrais intérêts. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi Tocqueville a-t-il besoin de partir en Amérique? Eh bien, justement, c'est là que vous allez le comprendre. S'il a besoin de partir en Amérique, c'est parce que les vieilles nations européennes, comme la France, ne permettent pas d'élaborer cette science politique nouvelle. C'est-à-dire que ce sont des nations qui en sont encore à se déchirer pour savoir s'il faut ou non accepter la démocratie, alors qu'elle s'impose inexorablement. Pour la petite histoire, je voudrais dire ici que Tocqueville est d'une famille noble. Hein, il y a dans ses ascendants pas mal de personnes illustres, hein, qui ont fait partie de la haute aristocratie de la monarchie française. Il y en a même quelques-uns qui ont été raccourcis pendant la Révolution française. Bon, eh bien, jamais Tocqueville ne dira que... bien sûr qu'il est... Il est marqué par son éducation, son ascendance, mais jamais Tocqueville ne dira qu'il faut retourner à la société antérieure. Et d'ailleurs, il va se fâcher avec sa famille. Hein. Il est républicain. Il est persuadé qu'on ne peut pas retourner en arrière et que la démocratie, la société démocratique, va s'imposer nécessairement. Seulement en France, elle s'impose avec des soubresauts. Elle s'impose de manière assez violente. Pourquoi? Parce que, au fond, les hommes se battent encore contre des vestiges du régime ancien. Vous voyez? Contre les vestiges de la monarchie absolue. Et donc, les Français, ils sont dans une situation où, finalement, les choses ne sont pas claires. C'est-à-dire que certains peuvent avoir encore l'illusion que la démocratie n'est pas un processus qui va s'imposer inexorablement. Alors donc, la meilleure chose à faire, si vous voulez, le meilleur moyen finalement de comprendre ce que c'est que la démocratie, eh bien c'est de quitter l'Europe. Hein, c'est de quitter l'Europe, c'est de partir en Amérique. Parce qu'en Amérique, eh bien, on peut observer une société qui vit en plein accord avec le principe d'égalité des conditions. C'est-à-dire que l'Amérique, la nation américaine, c'est une société qui est en plein accord avec ce principe d'égalité des conditions, alors que les sociétés européennes, bon, disons, elles sont déjà travaillées par ce principe, mais d'une certaine façon, elles ont encore un pied dans le passé. Donc le grand intérêt de la nation américaine, eh bien, ce sera de présenter le phénomène démocratique, pour ainsi dire, à l'état pur, comme dans un laboratoire. Et je lis ici le dernier texte qui se trouve sur la colonne de gauche, vous voyez, en bas, j'ai souligné, j'avoue que dans l'Amérique, j'ai vu plus que l'Amérique. J'y ai cherché une image de la démocratie elle-même, de ses penchants, de son caractère, de ses préjugés, de ses passions. J'ai voulu la connaître, ne fût-ce que pour savoir du moins ce que nous devions espérer ou craindre d'elle. Vous voyez ? J'ai voulu la connaître, ne fût-ce que pour savoir du moins ce que nous devions espérer ou craindre d'elle. Donc vous voyez ici, le but de Tocqueville, ce n'est pas simplement d'aller observer les mœurs des Américains, hein, ce n'est pas simplement de faire un travail de sociologie. Il s'agit de réfléchir en philosophe politique, hein, sur la société démocratique, vous voyez. Et étant entendu que ce qu'il va observer est appelé à se produire ensuite, en Europe. Ça ne va pas concerner que l'Amérique. Si maintenant vous lisez les 5 premiers chapitres, disons, du premier tome, première partie, si vous voulez, hein, je vous conseille la lecture de ces 5 premiers chapitres, qui sont très clairs. Eh bien, ces 5 premiers chapitres vont permettre de montrer, très simplement, que la nation américaine est une démocratie vivante dès le commencement, dès les débuts, à travers l'expérience de la commune, à travers l'expérience politique de la commune. C'est-à-dire que les Américains, ils sont dès le départ organisés en commune. C'est-à-dire que le principe de souveraineté populaire, eh bien, va se déployer sans aucun obstacle, comme un fleuve. Hein, d'ailleurs, Tocqueville utilise souvent la métaphore du fleuve. Donc, le principe de souveraineté populaire va se déployer comme un fleuve qui irrigue toutes les institutions, toutes les lois, mais aussi toutes les mentalités des hommes. Et en effet, dès le commencement, comme je vous le disais, dès le commencement, la société américaine est une démocratie vivante, car les Américains sont organisés politiquement en commune. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'ils participent tous à la gestion des affaires publiques. Ils décident en commun de l'impôt que chacun doit payer. Et ils sont tous à tour de rôle amenés à exercer des fonctions pour une durée limitée. C'est-à-dire que tous les Américains participent à la vie de la commune, à la vie politique de la commune, aux délibérations qui concernent la commune, aux décisions qu'il faut prendre pour telle ou telle question. L'existence des communes précède la constitution des États, qui vont se construire plus tard. Et puis, bien sûr, elle précède également, a fortiori, la constitution du gouvernement fédéral. Hein, du gouvernement fédéral qu'il sera possible de bâtir une fois que les Américains sont indépendants, bien sûr. Hein, c'est-à-dire qu'ici, vous avez donc d'abord l'existence des communes, ensuite la construction des États, puis plus tard la construction du gouvernement fédéral qui va permettre de diriger l'union des États. Mais si on regarde bien les choses, ce sont les principes de l'organisation de la commune qui vont déterminer l'existence des autres institutions qui sont plus grandes. Vous voyez ? Et de cette extension progressive du principe de souveraineté, eh bien, on peut conclure que ce principe, qui est déjà à l'œuvre donc dès la commune, est bien le principe générateur de la démocratie américaine. Vous voyez, là vous voyez in vivo comment ce principe générateur, hein, qui est déjà là dès le commencement, dans la commune, va engendrer toutes les autres institutions de la nation américaine. Et ce principe générateur va non seulement engendrer toutes les autres institutions américaines, mais évidemment, il va influencer les mœurs des Américains. Alors ce principe, il n'est pas simplement pour les Américains une pure idée intellectuelle. À partir du moment où il s'étend à toute la nation, à partir du moment où, vous voyez, il est le principe qui est au fondement de toutes les institutions, qui fait vivre, au fond, toutes les institutions et toutes les pratiques de la démocratie, eh bien, ce principe devient l'opinion fondamentale qui régit toute la société américaine. Et Tocqueville, ici, parle désormais de ce principe comme d'un dogme. Il dit que ce principe devient pour les Américains un dogme. Il parle du dogme de la souveraineté populaire, vous voyez. Et pourquoi il parle du dogme de la souveraineté populaire? Bien, pour montrer que ce principe de souveraineté populaire devient un véritable article de foi qui reçoit l'adhésion de tous les Américains. C'est un article de foi. Vous voyez, c'est un dogme. Hein, c'est sur cette croyance, finalement, que va reposer toute la vie politique des Américains. Et les conséquences de cette transformation, hein, du fait que ce principe devient un dogme, eh bien les conséquences sont très importantes. Elles sont décisives. En tant que ce principe se transforme en dogme, eh bien il existe désormais de chaque individu, qu'il n'obéisse qu'à lui-même. Parce que qu'est-ce que c'est que le principe de souveraineté populaire? C'est le principe qui veut que chaque citoyen s'autodétermine. Hein? C'est-à-dire qu'au fond, l'individu est citoyen au sens où il est membre du peuple souverain. Vous voyez? Bon, eh bien, à partir du moment où ce principe de souveraineté populaire devient un dogme, eh bien, il va exiger que l'individu n'obéisse qu'à lui-même. Alors, ça veut dire deux choses. D'une part, il obéit à lui-même, il doit obéir à lui-même comme individu particulier dans ce qui regarde ses intérêts personnels, ses affaires personnelles, mais aussi il n'obéit qu'à lui-même en tant que membre du peuple souverain dans ce qui regarde le bien commun, dans ce qui regarde la collectivité. Et vous voyez, vous assistez à un véritable triomphe donc du dogme de souveraineté populaire, et ce triomphe conduit les individus désormais à mettre en cause toute forme d'autorité personnelle d'un autre individu. C'est-à-dire que toute autorité, si vous voulez, personnelle, toute hiérarchie personnelle qui serait fondée, par exemple, sur une supériorité morale ou une supériorité intellectuelle, toute forme d'influence personnelle, eh bien, tout cela tend, d'une certaine façon, à être effacé, vous voyez. C'est-à-dire que le principe de souveraineté populaire, vous voyez, il commande la vie des individus, et donc il leur commande, finalement, de ne s'en tenir qu'à leur seule autorité individuelle, et à ne plus subir l'influence de personne. Vous voyez? Et donc là, vous avez, vous voyez, quelque chose de très important qui s'opère dans la démocratie américaine. C'est-à-dire que ce dogme de la souveraineté populaire conduit à détruire toute forme d'influence d'un individu sur un autre. C'est-à-dire, au fond, si je résume, je dirais que qu'est-ce que c'est que le dogme de la souveraineté populaire? C'est le dogme selon lequel, au fond, chacun doit décider tout seul. Vous voyez? Chacun décide. Il n'est pas tout seul, parce qu'il est avec les autres. Il décide avec les autres. Mais chacun s'autodétermine. Eh bien, c'est vraiment là ce qui se produit dans la nation américaine. C'est une nation remarquable, si vous voulez, en ce qu'elle est exclusivement régie par le principe de souveraineté populaire, en ce que ce principe s'y déploie en toute transparence et sans obstacle, contrairement justement aux nations européennes. Et comme l'écrit Tocqueville à la fin du chapitre 4 de la première partie du tome 1, alors c'est le texte qui est à droite, au milieu, j'ai souligné la phrase importante, mais on peut lire un peu plus. Vous voyez, le texte du milieu, là, le peuple, j'ai souligné cette formule, le peuple règne sur le monde politique américain comme Dieu sur l'univers. Vous voyez, le peuple règne sur le monde politique américain comme Dieu sur l'univers. Alors, peut-être devrions-nous lire un peu plus. C'est-à-dire que je vais commencer ma lecture quelques lignes auparavant, pas tout à fait au début. Voilà, je commence là. Le peuple, il parle évidemment des États-Unis, le peuple participe à la composition des lois, par le choix des législateurs, à leur application par l'élection des agents du pouvoir exécutif, on peut dire qu'il gouverne lui-même, tant la part laissée à l'administration est faible et restreinte, tant celle-ci se ressent de son origine populaire et obéit à la puissance dont elle émane, le peuple règne sur le monde politique américain comme Dieu sur l'univers. Il est la cause et la fin de toutes choses, tout en sort et tout s'y absorbe. Alors, voilà, ça je crois que c'est une formule très intéressante, parce que, vous voyez, d'ordinaire, quand on définit la démocratie, qu'est-ce qu'on dit de la démocratie ? On dit, c'est le gouvernement du peuple par lui-même. Seulement, tout de suite, on vous objecte, bon, ça n'a jamais vraiment existé, enfin, c'est une belle formule, c'est une formule un peu abstraite, qui ne correspond pas à la réalité des choses. Eh bien, justement, dans la nation américaine, ce n'est pas une vaine formule. C'est une formule qui va se réaliser concrètement, dans la mesure où le peuple est un pouvoir qui est entièrement immanent à la société démocratique. Immanent, c'est-à-dire qu'il est entièrement dedans, si vous voulez, hein. Il anime toutes les institutions, toutes les lois, tout ce qui s'y produit émane du peuple. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans la société démocratique américaine, il n'y a pas de pouvoir qui serait au-dessus, qui serait séparé, qui serait extérieur, localisé dans une institution. Non, le pouvoir, il est à l'intérieur du peuple. C'est le peuple qui se gouverne. Mais vraiment au sens fort. Ça veut dire que ce n'est pas un pouvoir localisable. C'est un pouvoir qui se diffuse à toute la société, à toutes les institutions. Et quand le pouvoir politique se localise, ou quand il est détenu par une élite, eh bien, on n'a plus affaire vraiment à un gouvernement démocratique. Vous voyez, quand vous avez un pouvoir qui commence à se séparer, vous voyez, du peuple, à devenir un peu extérieur, au fond, au peuple, ce n'est plus. On n'a plus vraiment affaire à un gouvernement démocratique. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est la critique que Tocqueville adresse aux révolutionnaires français. Ils ont supprimé la royauté. Très bien. Mais ils ont maintenu la forme centralisée du pouvoir absolu. Il ne suffit pas de supprimer la monarchie au nom de la souveraineté populaire pour promouvoir une vraie démocratie. Il faut accepter de laisser le peuple se gouverner lui-même. Et c'est ce que ne font pas véritablement les révolutionnaires français et leurs successeurs. Vous voyez ? C'est-à-dire que là où, pour le dire d'une autre façon, là où les gouvernés ne sont que des administrés, là où ils obéissent à un pouvoir qui se réclame peut-être de la souveraineté populaire, mais qui est au-dessus finalement du peuple, eh bien, vous n'avez pas vraiment affaire à une démocratie. Ce n'est pas vraiment une démocratie. Le gouvernement démocratique n'est pas celui d'une élite. Il ne se situe pas dans un individu. Il ne se situe pas dans un groupe social. C'est un gouvernement diffus, qui se diffuse à toute la société. Hein, puisque tout ce qui existe institutionnellement en émane. Et donc, d'ailleurs, vous avez un très très joli texte, un très très beau texte, que je vous ai photocopié, qui donne une idée précise de ce que veut montrer Tocqueville quand il va parler d'un gouvernement démocratique. Il donne une description de la nation américaine dans ce texte. Alors, ce texte, si vous voulez, vous le trouvez en haut à droite. Je vais le lire. Il n'est pas impossible de concevoir l'immense liberté dont jouissent les Américains. On peut aussi se faire une idée de leur extrême égalité. Mais ce qu'on ne saurait comprendre, sans en avoir déjà été le témoin, c'est l'activité politique qui règne aux États-Unis. À peine êtes-vous descendu sur le sol de l'Amérique que vous vous trouvez au milieu d'une sorte de tumulte. Une clameur confuse s'élève de toutes parts. 1000 voix parviennent en même temps à votre oreille. Chacune d'elles exprime quelques besoins sociaux. Autour de vous, tout se remue. Ici, le peuple d'un quartier est réuni pour savoir si l'on doit bâtir une église. Là, on travaille au choix d'un représentant. Plus loin, les députés d'un canton se rendent en toute hâte à la ville afin d'aviser à certaines améliorations locales. Dans un autre endroit, Ce sont les cultivateurs d'un village qui abandonnent leur sillon pour aller discuter le plan d'une route ou d'une école. Des citoyens s'assemblent dans le seul but de déclarer qu'ils désapprouvent la marche du gouvernement, tandis que d'autres se réunissent afin de proclamer que les hommes en place sont les pères de la patrie. En voici d'autres encore qui, regardant l'ivrognerie comme la source principale des maux de l'État, viennent s'engager solennellement à donner l'exemple de la tempérance. Oui, le tableau est assez éloquent. Et je crois que tout est là. Tout est là, c'est-à-dire dans cette espèce de tableau. Le gouvernement démocratique, il est tout entier dans cette espèce de tumulte dont parle ici Tocqueville. Il est tout entier dans cette clameur confuse, qui s'élève de toutes parts. Une démocratie, si vous voulez, c'est une société extrêmement vivante, où les gens prennent des tas d'initiatives, parfois d'ailleurs dans le plus grand désordre. Mais c'est ça, une démocratie. Et c'est ce mouvement perpétuel et diffus qui va constituer précisément la force de ce gouvernement. Et sur ce point, Tocqueville explique qu'il ne faut pas confondre la force d'un gouvernement et puis sa stabilité. C'est-à-dire que les ennemis de la démocratie, c'est ce que dit Tocqueville, hein, les ennemis de la démocratie soulignent volontiers sa faiblesse en invoquant son instabilité, et puis souvent l'incompétence du peuple. Alors, dans une certaine mesure, ils ont raison. Ils ont raison, parce que c'est vrai que dans un gouvernement démocratique, le pouvoir n'est pas stable. Il change souvent de détenteur. Et puis, le peuple n'est sans doute pas aussi habile et compétent que les experts, enfin, les despotes éclairés. Vous voyez ? Bon, c'est vrai que vous entendez souvent dire qu'il y a du populisme. Bon, bien, effectivement, il y a des experts qui, peut-être, sont mieux qualifiés pour comprendre un certain nombre de choses. Mais dans une démocratie, justement, tout le monde participe à la vie politique. Et c'est ça l'essentiel, c'est ça qui fait la force de ce gouvernement, même si, bien sûr, encore une fois, ce n'est pas un gouvernement qui est organisé de la manière toujours la plus rigoureuse, si vous voulez. Hein. La force de ce gouvernement réside avant tout dans la participation du peuple à ce gouvernement, du peuple à toutes les échelles, hein, pas seulement en haut. Donc là, vous voyez, alors là, et ça c'est très important, hein, c'est ce que veut montrer absolument Tocqueville. Hein. Alors la démocratie, maintenant, évidemment, si elle peut engendrer une nouvelle forme de pathologie, comme la tyrannie de la majorité, eh bien c'est justement en raison de sa force, ce n'est pas en raison d'une quelconque faiblesse. C'est la force de la démocratie qui, justement, l'expose à ce danger. Son gouvernement, encore une fois, est d'autant plus fort que toutes les autorités émanent de la société, émanent du peuple, et sont de ce fait soumises à la majorité. Et c'est ça le danger, c'est là que se trouve le danger. C'est-à-dire que la démocratie va conférer à la majorité un pouvoir sans limite. Un pouvoir sans limite qui peut avoir des effets destructeurs. Et dans deux endroits, là, je suis désolé, je n'ai pas photocopié ces deux passages, mais je vais les lire lentement. À deux endroits de son texte, Tocqueville exprime très très bien la nature du danger nouveau qui va devoir être confronté, auquel on va devoir, pardon, être confronté. Premier passage, si vous voulez, ça se trouve page 350, hein, en Garnier Flammarion. La liberté est en péril lorsque ce pouvoir ne trouve devant lui aucun obstacle qui puisse retenir sa marche et lui donner le temps de se modérer lui-même. Je reprends la formule. La liberté est en péril lorsque ce pouvoir, je parle du pouvoir démocratique, ne trouve devant lui aucun obstacle qui puisse retenir sa marche et lui donner le temps de se modérer lui-même. Donc, si vous voulez, comparons la démocratie à une sorte de fleuve impétueux, hein, dont la force est redoutable et dangereuse. Et il faudrait, en quelque sorte, qu'il y ait des digues, en quelque sorte, qu'il y ait des obstacles, hein, pour retenir, contenir ce flot. Hein. Et lui permettent d'avoir un cours paisible. Deuxième citation. Je ne pense pas que la nature d'un pouvoir démocratique soit de mauvais... Excusez-moi, je reprends. Je ne pense pas que la nature d'un pouvoir démocratique soit de manquer de force et de ressources. Je crois au contraire que c'est presque toujours l'abus de ses forces et le mauvais emploi de ses ressources qui le font périr. Voyez ? Je crois au contraire que c'est presque toujours l'abus de ses forces et le mauvais emploi de ses ressources qui le font périr. Alors, ici, une remarque. Pour exprimer la nature du danger qui va se présenter, eh bien, Tocqueville reprend l'argumentation du célèbre philosophe Montesquieu au chapitre 4 du livre 11 de l'Esprit des lois que je vous ai photocopié. C'est un texte très très célèbre. Et Tocqueville est un disciple de Montesquieu, en un sens. C'est-à-dire qu'il ajuste la réflexion de Montesquieu, si vous voulez, à la société démocratique moderne. Hein ? Il reprend cette analyse, non pas telle qu'elle, il s'en inspire, mais il va l'ajuster, en quelque sorte, à l'examen de la société démocratique moderne. Alors voilà ce que dit Montesquieu, ce que disait Montesquieu en bas, à droite. Hein ? Colonne de droite, en bas. Je passe les premières phrases, je lis ce qui est souligné, hein, ça c'est très célèbre. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Qui le dirait ? La vertu même a besoin de limites. Parce que certains vont vous dire, bon, mais enfin moi je suis vertueux. Je saurais moi-même me modérer, me limiter. Faites-moi confiance. J'exercerai sagement le pouvoir. Mais non, mais même la vertu, même celui qui a la vertu, à un moment donné, il va penser que c'est tout de même une bonne chose que d'intervenir en force. Bon. Alors, vous voyez, on ne peut pas ici compter sur la vertu. Le pouvoir tend toujours à abuser. Hein ? C'est ça que montre Montesquieu. Il y a une pente naturelle du pouvoir qui le conduit à l'abus. Et la seule solution pour éviter l'abus de pouvoir, eh bien, c'est d'agencer les pouvoirs, c'est de disposer les pouvoirs de telle sorte qu'ils puissent s'équilibrer en se limitant mutuellement, et c'est ce que Montesquieu va appeler la constitution. Qu'est-ce que c'est qu'une constitution ? C'est un agencement de pouvoir, c'est un agencement de puissance qui vont s'équilibrer en s'opposant mutuellement. Vous voyez, c'est la solution. C'est comme un mécanisme d'horlogerie, si vous voulez, une constitution. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Mais ici, si vous regardez bien ce que dit Montesquieu, Montesquieu n'envisageait l'abus de pouvoir qu'en tant qu'il était exercé par un homme. C'est-à-dire qu'il parlait de l'abus de pouvoir qu'exercé par un homme. Or, ici... Nous ne sommes plus dans cette configuration avec la démocratie moderne. Ici, il s'agit du pouvoir d'un peuple entier. Il s'agit ici du gouvernement d'un peuple. Alors, qu'en est-il lorsque ce pouvoir est celui du peuple entier, comme celui qui existe, au fond, dans le gouvernement démocratique ? C'est-à-dire, le pouvoir du peuple, il n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite auquel il puisse s'opposer. Il n'y a pas d'autre pouvoir qui puisse, en quelque sorte, lui résister. Alors, la question, ici, c'est donc, à quel autre pouvoir va-t-on pouvoir faire appel pour modérer le pouvoir du peuple, si l'on sait que le pouvoir du peuple ne peut rencontrer, par définition, aucun autre pouvoir sur son chemin, si l'on sait qu'aucune autorité ne peut lui résister ni s'opposer à lui, puisque toutes les autorités en émanent. Vous voyez, ici, on va mieux comprendre la nature du danger auquel est exposé le gouvernement démocratique. D'où vient le danger du gouvernement démocratique ? Il vient de sa toute-puissance. Il vient précisément de sa toute-puissance. Le pouvoir du peuple est celui en qui la menace de la démesure est la plus grande. Car il n'y a aucune limite extérieure qui puisse modérer ce pouvoir. Aucune limite extérieure. Alors que, vous voyez, par exemple, quand Montesquieu réfléchit à la Constitution, bon, bien, il va diviser le pouvoir, hein, le pouvoir législatif, exécutif, etc. Je ne rentre pas là-dedans. Et c'est vrai qu'il y aura un jeu qui permet, au fond, un équilibre entre ces pouvoirs. Vous voyez ? Bon, ici, il n'y a pas de limite extérieure. Le pouvoir du peuple, il est tout puissant. Alors, d'ailleurs, ici, souvent, très souvent, dès l'introduction de la démocratie en Amérique, Tocqueville reprend l'analyse de Montesquieu. C'est-à-dire qu'il compare, la société moderne, la société démocratique moderne, avec l'ancienne monarchie. Avec l'ancienne monarchie française, celle qui a été renversée par la Révolution française. Dans l'ancienne monarchie, peut-être sauf à la fin avec Louis XIV, enfin en tout cas dans la monarchie traditionnelle, le pouvoir du roi était tempéré, il était modéré par l'action des pouvoirs intermédiaires, c'est-à-dire la noblesse, les parlements. C'est-à-dire que ces pouvoirs intermédiaires modéraient le pouvoir royal. Il l'empêchait, en quelque sorte, de devenir tyrannique. Ils exerçaient un frein. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Louis XIV a tout fait pour supprimer ces freins et diminuer le rôle des parlements. Vous voyez, par exemple. Eh bien, c'est ce que rappelle Tocqueville dans l'introduction à la démocratie en Amérique. Qu'est-ce qu'il dit ? Je cite un passage que vous n'avez pas. Nous avons abandonné ce que l'État ancien pouvait présenter de bon, sans acquérir ce que l'État actuel pourrait offrir d'utile. C'est-à-dire que nous avons supprimé l'État ancien, bon, et là, il n'y a pas ici à faire preuve de nostalgie, il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais il s'agit de comprendre que, disons, dans l'ancien système, il y avait tout de même un avantage qu'il faudrait en quelque sorte recréer. On avait un mécanisme de modération du pouvoir qui maintenant, justement, avec la société démocratique, semble avoir totalement disparu. Et qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? Qu'est-ce qu'il faudrait tout de même quelque chose pour modérer le pouvoir absolu du peuple ? Donc vous voyez ici que le problème est de savoir s'il va être possible d'opposer une résistance à la toute-puissance du gouvernement démocratique. Et quand Tocqueville compare la démocratie à l'ancienne monarchie, ce n'est pas par nostalgie, encore une fois. Il s'agit seulement pour lui de cerner le danger nouveau engendré par la démocratie et de voir comment, de voir de quelle manière on va pouvoir le surmonter. Alors, j'indique tout de suite les solutions, puisque je n'aurai pas le temps de les développer. Je les indique très brièvement. Vous voyez, pour Tocqueville, si rien ne peut s'opposer de l'extérieur, rien ne peut s'opposer de l'extérieur au principe de souveraineté populaire, hein, rien, par définition, eh bien, la solution sera d'amener le pouvoir démocratique à se modérer de lui-même, c'est-à-dire à trouver en lui-même des dispositifs qui permettront de modérer son pouvoir. C'est-à-dire qu'il s'agira d'inventer des obstacles, des freins, des dispositifs institutionnels à l'intérieur de la démocratie, pour la conduire, comme dit Tocqueville, à mieux employer ses ressources, à canaliser son énergie. Alors, quels seront ces dispositifs institutionnels sur lesquels il faut compter ? Les associations, la commune, les communes, la démocratie communale, où les peuples, où les hommes participent à la vie démocratique, voyez. Qu'est-ce qu'il y a ? La liberté de la presse. L'indépendance de la justice, ce que, alors je ne peux pas développer, Tocqueville appelle l'esprit légiste, c'est-à-dire qu'au fond, la rigueur des juges, et puis aussi l'institution des jurys populaires. Vous voyez, bon, il y a un certain nombre de dispositifs comme ça auxquels il faut réfléchir, auxquels il faut penser, que l'Amérique a mises en place, mais qui sont fragiles, qui sont très fragiles, parce qu'ils peuvent être à tout moment menacés par le fleuve impétueux de la démocratie, peuvent être renversés, vous voyez. Donc il faut, vous voyez, il faut compter là-dessus, hein. C'est-à-dire que dans ces associations, dans ces communes, les hommes participent à leur mesure, à l'organisation finalement de la vie politique, chacun. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ils sortent du repli individualiste, de l'isolement. L'isolement qui est très dangereux, si vous voulez, parce qu'ils risquent, d'aboutir à une sorte de confiscation du pouvoir par une institution centrale. Vous voyez, il faut donc compter sur cette participation du peuple à tous les niveaux pour, en quelque sorte, faire que la démocratie soit vivante et que la majorité ne prime pas la minorité. C'est là-dessus qu'il faut compter. Vous voyez ? Il faut diviser, en quelque sorte, diviser le pouvoir démocratique, le diviser, l'éparpiller, faire en sorte qu'il soit divisé pour qu'il reste vivant et qu'il n'opprime pas. Bon, mais je n'aurai pas le temps de développer ces solutions. D'ailleurs, je vous recommande la lecture de Tocqueville. Hein. C'est, je pense, tout à fait accessible. Hein. Avant d'envisager ces solutions, il faut d'abord mieux comprendre en quoi consiste exactement la nature de ce danger que l'on appelle la tyrannie de la majorité. Hein, j'en ai parlé, mais c'est pas suffisant. Et pour comprendre en quoi l'opinion majoritaire peut exercer une domination tyrannique, eh bien, il faut lire surtout attentivement le fameux chapitre 7 du livre 2 du premier tome. Bah, il y a deux tomes, hein, donc je suis obligé d'être très précis. Vous voyez, c'est dans ce chapitre 7 du livre 2 du tome 1 que vous trouvez les développements les plus importants. Et puis on peut ajouter, j'ajouterai, les trois premiers chapitres du tome 2. Première partie. Ce sont au fond pour moi les passages qui sont les plus éclairants sur la question. Alors, là notamment, vous allez... Page 2. Hein, vous, page 2, donc. Le début du chapitre 7, enfin en tout cas le début du passage consacré à la tyrannie de la majorité dans le chapitre 7 commence de la façon suivante. Je vous lis le début du texte. Hein. Ici, Tocqueville, vous allez voir, énonce un paradoxe qu'il faut considérer, qu'il faut expliquer. Je regarde comme impie et détestable cette maxime qu'en matière de gouvernement, la majorité d'un peuple a le droit de tout faire. Et pourtant, je place dans les volontés de la majorité l'origine de tous les pouvoirs. Suis-je en contradiction avec moi-même ? Et je reprends. Je regarde comme impie et détestable cette maxime qu'en matière de gouvernement, la majorité d'un peuple a le droit de tout faire. Et pourtant, je place dans les volontés de la majorité l'origine de tous les pouvoirs. Suis-je en contradiction avec moi-même ? Alors, j'explique. Apparemment, oui, il y a contradiction, apparemment. Apparemment, il y a contradiction entre l'énoncé de la règle de la majorité et puis le rejet par Tocqueville de la maxime selon laquelle la majorité détient un pouvoir absolu. Alors, expliquons. Le principe de majorité, c'est la règle qui est adoptée dans les démocraties, faute de mieux, hein. On ne peut pas avoir l'unanimité, ou très rarement. C'est la règle donc adoptée dans les majorités pour adopter une décision ou pour élire une assemblée. Et en ce sens, évidemment, Tocqueville peut dire « Les volontés de la majorité sont à l'origine de tous les pouvoirs. Nul ne contestera la règle de majorité. » Mais que veut montrer Tocqueville ? Il veut montrer que l'adoption de la règle de majorité, comme principe de légitimation des pouvoirs, l'adoption de cette règle de majorité ne signifie aucunement que la majorité est reine, que la majorité est souveraine. C'est-à-dire qu'il va falloir bien comprendre que la règle de la majorité n'institue pas le règne de la majorité. Vous voyez, soyons clairs là-dessus, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il va falloir bien expliquer. Hein, la règle de la majorité n'institue pas le règne de la majorité. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas, elle ne donne pas droit à la majorité de se prétendre toute puissante, de se prétendre un pouvoir absolu. Alors pourquoi la majorité ne peut pas se prétendre toute puissante? Je lis la suite, deuxième paragraphe. Il existe une loi générale. Il existe une loi générale qui a été faite, ou du moins adoptée, non pas seulement par la majorité de tel ou tel peuple, mais par la majorité de tous les hommes. Cette loi, c'est la justice. Je reprends ce court paragraphe. Il existe une loi générale qui a été faite, ou du moins adoptée, non pas seulement par la majorité de tel ou tel peuple, mais par la majorité de tous les hommes. Cette loi, c'est la justice. Expliquons tranquillement. Cette loi, qui est censée être adoptée par la majorité de tous les hommes, hein, de tous les hommes, elle est au-dessus de la règle de majorité adoptée par un peuple particulier, vous voyez, c'est une loi générale, elle est au-dessus de la règle de majorité adoptée par un peuple particulier. Alors il y a juste une petite chose qui peut faire difficulté dans la lecture, c'est que quand Tocqueville dit que cette loi a été adoptée par la majorité de tous les hommes, qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne fait pas état d'une adoption effective. Il ne fait pas état d'une adoption effective. Tous les hommes ne se sont pas réunis pour s'entendre là-dessus. Il fait état d'une exigence qui est tacitement admise. C'est une exigence tacitement admise. Donc, le propos de Tocqueville, c'est de montrer que le droit d'un peuple n'est que l'application momentanée et imparfaite de la justice universelle, de cette loi générale de la justice, et ce droit particulier d'un peuple, ne peut pas se présenter comme une loi absolue. C'est-à-dire que les décisions qui ont été prises dans une nation démocratique et qui ont été adoptées selon le principe de majorité, eh bien, ne doivent jamais être présentées comme l'expression même de la justice. C'est-à-dire qu'il faut que demeure toujours dans la conscience, il faut que demeure toujours la conscience, si vous voulez, d'un écart entre l'idéal de justice et puis le droit établi. Il faut que jamais on puisse considérer que le droit établi, le droit institué, en fonction du principe de majorité, c'est la justice. C'est-à-dire qu'il faut considérer qu'il en est une incarnation toujours insuffisante, toujours imparfaite en quelque sorte. Il y a un écart entre la justice et le droit effectif et le droit établi. Et donc la loi idéale de justice invite tout simplement à ne pas réduire le principe de souveraineté populaire qui est au fondement de la démocratie à l'expression momentanée de la majorité en laquelle elle s'incarne. Vous voyez ? Je reprends. Vous voyez, au fond, cette loi de justice invite donc à ne pas réduire le principe de souveraineté populaire qui est au fondement de la démocratie à l'expression momentanée d'une majorité. Expression momentanée d'une majorité en laquelle, forcément, le principe de souveraineté est condamné à s'incarner. Donc, bon, mais j'avoue que c'est la seule petite subtilité du texte que nous rencontrerons ce soir. Pour le reste, c'est clair. Il y a tyrannie. Non, mais c'est, je pense, assez facile. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée est très simple et la suivante. Aucune majorité ne peut se prétendre la souveraineté. Voilà. Aucune majorité ne peut prétendre être le souverain, c'est-à-dire le peuple. En même temps, il faut bien qu'on tranche. Hein, il faut bien qu'on adopte le principe de majorité. Donc la majorité va traduire tout de même la souveraineté du peuple. Mais il faut toujours qu'on ait conscience qu'il y a un décalage entre l'idéal de justice et puis, effectivement, ce que va décider la majorité. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut qu'on ait en conscience. Alors, il y a tyrannie de la majorité quand la démocratie identifie la souveraineté du peuple à la majorité de fait qui l'incarne. Et quand la majorité prétend être souveraine, eh bien, elle se prétend infaillible. C'est ça le problème. Quand la majorité, vous voyez, qui est, a été élue hein, et qui gouverne, eh bien, prétend être souveraine, elle prétend être infaillible. Et c'est là qu'elle devient tyrannique. Et c'est là qu'elle devient tyrannique parce que là, effectivement, le principe de majorité, eh bien, se transforme en droit du plus fort. Alors, lisons un passage, toujours, de notre texte. Toujours le texte, le même texte, mais plus bas. Plus bas, dernier paragraphe. Qu'est-ce donc qu'une majorité prise collectivement, sinon un individu qui a des opinions et le plus souvent des intérêts contraires à un autre individu, qu'on nomme la minorité. Or, si vous admettez qu'un homme revêtu de la toute-puissance peut en abuser contre ses adversaires, pourquoi n'admettez-vous pas la même chose pour une majorité ? Les hommes, en se réunissant, ont-ils changé de caractère ? Sont-ils devenus plus patients dans les obstacles en devenant plus forts ? Pour moi, je ne saurais le croire, et le pouvoir de tout faire, que je refuse à un seul de mes semblables, je ne l'accorderai jamais à plusieurs. Ce n'est pas parce que vous êtes plusieurs que vous êtes mieux que quand vous êtes seul. Hein ? C'est clair. Donc la loi du plus grand nombre, au fond, ce n'est jamais que la loi du plus fort. La loi du plus grand nombre, ce n'est jamais que la loi du plus fort. Et si la majorité prétend avoir raison, simplement parce qu'elle est la majorité, eh bien à ce moment-là, la loi du plus fort devient le droit du plus fort. C'est-à-dire que, vous connaissez tous la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau, hein ? Eh bien la majorité, elle va ressembler ici au loup de la fable de La Fontaine, vous savez, le loup et l'agneau. Le loup, vous avez remarqué, dans la fable, il ne se contente pas de manger l'agneau. Ce n'est pas compliqué, il est le plus fort. Il suffit d'attraper l'agneau et de le manger. Mais non, le loup, il a besoin de raisonner. Il a besoin de montrer qu'il est dans son droit. Il invoque son droit de manger les agneaux, parce que les agneaux, ils ont abusé. Bon. Eh bien, ici, la majorité, elle est comme le loup de la fable. C'est-à-dire qu'elle a besoin de croire que ce n'est pas seulement par la force qu'elle s'impose, mais qu'elle gouverne, parce que c'est le droit. Parce que le droit est de son côté, parce que la raison est de son côté. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Exactement ça. C'est-à-dire qu'au fond, vous voyez, ce que l'on appelle le droit du plus fort, c'est cette espèce de justification de la force, hein, que l'on fait passer pour un droit. Alors que la force, finalement... Si elle est vraiment la force, elle s'impose silencieusement. Mais non, mais le loup, hein, il a besoin de, vous voyez, de toute une théorie hein, pour justifier ce qu'il a déjà par avance décidé. Il faut qu'il habille ça en droit. Mais c'est ça, le droit du plus fort. Eh bien, c'est ça aussi, si vous voulez, ce que l'on peut appeler ici la prétention de la majorité à être souveraine. Vous voyez ? Donc, si je résume... La règle de la majorité, en soi, n'est pas tyrannique. Elle n'est pas tyrannique, hein. On est bien clair là-dessus. Mais ce qui est tyrannique, c'est que la majorité se prétende souveraine. C'est pas parce que la règle de la majorité est nécessaire que pour autant, une fois que la majorité est constituée, elle doit se croire la reine. Alors vous voyez que la tyrannie de la majorité a des effets politiques, mais elle n'a pas seulement des effets politiques. Elle a des effets politiques parce que, évidemment, la majorité, au nom de son droit, va prétendre opprimer la minorité. Va opprimer la minorité, si vous voulez, en invoquant le droit. En imposant des lois qui seront exclusivement à son avantage. Bon. Mais ça, c'est un premier aspect du problème. La tyrannie de la majorité, elle n'a pas seulement des effets politiques. Elle ne... conduit pas seulement à opprimer politiquement la minorité. Elle a aussi des effets moraux, intellectuels, en exerçant une tyrannie d'opinion. C'est-à-dire que la tyrannie hein, de la majorité, c'est aussi une tyrannie d'opinion. Donc vous voyez que, ici, la tyrannie de la majorité, elle s'exerce sur deux plans. Sur deux plans, il faut bien le mesurer. Un plan politique, c'est celui qu'on vient de présenter, mais aussi un plan moral. Alors sous le premier aspect, c'est-à-dire sous l'aspect politique, eh bien, la tyrannie de la majorité revient à proclamer que la majorité a toujours raison. Au fond, sur le plan politique, vous voyez, la majorité prétend être souveraine. C'est ça, la tyrannie de la majorité, sur le plan politique. Mais sous le deuxième aspect, c'est-à-dire sous l'aspect moral, c'est ce que nous allons voir maintenant, eh bien, la tyrannie de la majorité conduit les individus à croire que la majorité a toujours raison. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Sur le plan politique, vous voyez, la tyrannie de la majorité, si je prends une formule très simple, elle signifie, moi, majorité, j'ai raison, et toi, tu l'écrases. Et sur le plan moral, en tant que tyrannie d'opinion, la tyrannie de la majorité, elle est, au fond, cette opinion selon laquelle la majorité a toujours raison. Et cette opinion, eh bien, elle va être en quelque sorte, elle va être ici reprise par les individus. Hein. Ce sont les individus eux-mêmes qui vont croire que la majorité a toujours raison. Donc, c'est ce point-là maintenant que je voudrais aborder, cette tyrannie d'opinion. C'est ce que Tocqueville appelle aussi l'empire moral de la majorité. L'empire moral de la majorité. Et il commence par montrer que cet empire moral repose sur deux idées. Alors, c'est présenté ici, feuille 2, dans le texte, c'est en bas. En bas et en haut, en fait. En bas à gauche, et en haut, ensuite, à droite. Mais je lis simplement ce que j'ai souligné, pour aller plus vite. L'empire moral de la majorité se fonde en partie sur cette idée qu'il y a plus de lumière et de sagesse dans beaucoup d'hommes réunis que dans un seul, dans le nombre des législateurs que dans le choix. C'est la théorie d'égalité appliquée aux intelligences. Première idée. Deuxième idée, en haut à droite, passage souligné. L'empire moral de la majorité se fonde encore sur ce principe que les intérêts du plus grand nombre doivent être préférés à ceux du petit. Voilà les deux idées, si vous voulez, qui sont à la base, finalement, de l'empire moral de la majorité. C'est-à-dire que c'est en raison de ces deux idées que la souveraineté du peuple va être identifiée moralement à la majorité en Amérique. Et je répète, ici l'analyse ne va pas se faire du point de vue de la majorité elle-même, il va se faire du point de vue des individus qui perçoivent cette majorité. Les individus vont percevoir cette majorité comme étant plus juste, elle paraît plus juste, elle paraît plus sage que la minorité, et ses intérêts sont préférables, vous voyez, du point de vue des individus. Hein. Alors, regardez ce qui se passe. Déjà, la majorité se trouve dans les faits investie d'une puissance considérable sur le plan politique, eh bien, elle va se trouver renforcée par une tyrannie d'opinion. C'est-à-dire qu'elle va exercer une véritable emprise morale sur l'esprit des citoyens, et c'est là, je pense surtout, que l'analyse de Tocqueville est remarquable, c'est là qu'elle est la plus originale, c'est là aussi qu'elle est la plus percutante. Alors, je lis ici un extrait, c'est colonne de droite, toujours, mais le texte y vient après, le début. Lorsqu'on vient à examiner quel est aux États-Unis l'exercice de la pensée, c'est alors qu'on aperçoit bien clairement à quel point la puissance de la majorité surpasse toutes les puissances que nous connaissons en Europe. Hein, lorsqu'on vient examiner quel est aux États-Unis l'exercice de la pensée, c'est alors qu'on aperçoit bien clairement à quel point la puissance de la majorité surpasse toutes les puissances que nous connaissons en Europe. Alors c'est ça la grande découverte de Tocqueville en fait. C'est-à-dire que Tocqueville découvre que la puissance de la majorité est d'autant plus grande que la pensée des hommes, sur lesquels elle produit des effets, est par nature ce qu'il y a de plus insaisissable, ce qu'il y a de plus rebelle à toute tentative d'endoctrinement. C'est ça qui est remarquable. C'est ça qui est paradoxal. Et ici, lisons la suite. Lisons le paragraphe, le début du paragraphe suivant. Vous voyez, Tocqueville écrit que la pensée est un pouvoir invisible et presque insaisissable qui se joue de toutes les tyrannies. Cette phrase est très importante. La pensée est un pouvoir invisible et presque insaisissable qui se joue de toutes les tyrannies. Et je poursuis, de nos jours, les souverains les plus absolus de l'Europe ne sauraient empêcher certaines pensées hostiles à leur autorité de circuler sourdement dans leurs États et jusqu'au sein de leurs cours. Là, il parle de l'Europe, hein, monarchie absolue, etc. Donc une monarchie absolue, une tyrannie traditionnelle, si vous voulez. Eh bien, aura beau faire, elle aura beau opprimer, elle aura beau recourir à la contrainte, elle ne parviendra jamais à empêcher les pensées hostiles, elle ne parviendra jamais à totalement conformer les esprits. Elle n'y parviendra pas. Mais justement, c'est là l'intérêt de ce que dit Tocqueville. Ce qu'une tyrannie traditionnelle ne peut pas accomplir, eh bien la tyrannie de la majorité, en démocratie, peut le faire. Et pour le comprendre, eh bien, il va falloir bien comprendre, il va falloir bien distinguer ce qu'on peut appeler le formatage des esprits qui est opéré par la tyrannie de la majorité, je veux dire, les choses comme ça, le formatage, pas très beau, mais c'est une formule qui parle. Il va falloir bien distinguer ce formatage de la contrainte et qui est exercée dans une tyrannie traditionnelle. Et déjà, ici, je crois qu'il faut mesurer ce que dit Tocqueville à ce que disaient, par exemple, les philosophes de la tolérance comme Locke et Bell, que nous avons déjà étudiés. Locke et Bell ne se plaçaient pas dans la même perspective. Hein, ils ne se plaçaient pas dans la même perspective. Quand ils abordaient la question de l'intolérance, ils avaient en vue la politique de persécution et de censure exercée par un État qui était au service d'une Église et qui, politique, était menée au nom de la vérité et au nom de la foi. Hein, c'était ça qu'ils visaient. Mais, et donc, je rappelle très brièvement que Locke et Bayle avaient tout à fait raison de montrer, contre l'interprétation que faisait saint Augustin de la parabole du festin dans l'évangile de Luc, que la contrainte en matière de religion est non seulement illégitime, mais totalement inefficace. C'est ce qu'il montrait. Hein ? Souvenez-vous, la contrainte est totalement illégitime et surtout inefficace. Et je rappelle simplement cette citation de Locke dans la lettre sur la tolérance. Très, très claire, très simple. Il n'y a que la lumière et l'évidence qui aient le pouvoir de changer les opinions des hommes, et cette lumière ne peut jamais être produite par les souffrances corporelles, ni par aucune peine extérieure. Cette formule, je pense, est claire. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas contraindre un homme par la force à changer de conviction. Ou alors, simplement, il va devenir hypocrite. Bon. Quand Tocqueville écrit ici la phrase que je citais tout à l'heure, la pensée est un pouvoir invisible et presque insaisissable qui se joue de toutes les tyrannies, il confirme l'analyse de Locke. Seulement, l'analyse de Locke ne permet pas de saisir justement la spécificité de l'emprise morale exercée par la puissance de la majorité sur la conscience des hommes dans la démocratie américaine. Ce n'est pas de même nature. Vous allez voir, ce n'est pas la même chose. Et là, je lis le texte. Alors, c'est page 3, cette fois-ci. Allez, page 3. Le texte qui se trouve en haut à gauche. Et pour aller vite, vous voyez, j'ai souligné le passage qui m'intéresse. voyez, sous le gouvernement absolu d'un seul. Le despotisme, hein, je lis ce passage, c'est vraiment essentiel. Sous le gouvernement absolu d'un seul, le despotisme, pour arriver à l'âme, frappait grossièrement le corps. Et l'âme, échappant à ses coups, s'élevait glorieuse au-dessus de lui. Hein, comme nous avons vu avec Voltaire, comment Jean Calas, hein, qui meurt et qui, jusqu'au bout, clame son innocence, et même demande à Dieu de pardonner à ses juges. Vous voyez, la conscience, son esprit s'élève au-dessus de son corps. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. Eh bien, l'âme, échappant à ses coups, s'élevait glorieuse au-dessus de lui. Mais dans les républiques démocratiques, ce n'est point ainsi que procède la tyrannie. Elle laisse le corps et va droit à l'âme. Alors là, vraiment, magnifique. C'est remarquablement écrit. Hein, je relis. Sous le gouvernement absolu d'un seul, le despotisme pour arriver à l'âme frappait grossièrement le corps, et l'âme échappant à ses coups s'élevait glorieuse au-dessus de lui. Mais dans les républiques démocratiques, ce n'est point ainsi que procède la tyrannie. Elle laisse le corps et va droit à l'âme. Alors là, vraiment... Eh bien, expliquons tout de même les choses. C'est-à-dire que, dans la démocratie, la majorité ne réprime pas. Elle n'agit pas sur le corps pour viser indirectement l'âme, comme le faisait l'Inquisition. Mais, je relis la formule, elle laisse le corps et va droit à l'âme. Donc, vous voyez que pour saisir l'ampleur de la puissance de la majorité, pour comprendre comment elle parvient à aller droit à l'âme, eh bien, il faut se rappeler qu'elle s'exerce sans limite dans toute la société. Le pouvoir de la majorité dans une démocratie, je le rappelle, c'est un pouvoir absolu, car rien ne peut lui résister, contrairement au pouvoir même des monarchies absolues de la vieille Europe. Parce que même le pouvoir d'une monarchie absolue rencontre des limites. Il est toujours possible de s'appuyer sur un contre-pouvoir, sur une fraction de la société, si vous voulez, pour exprimer une opinion contraire à celle qui est professée par le pouvoir. Bon, il y a du jeu, il y a toujours un peu de jeu, même dans une situation extrêmement difficile. C'est dangereux, bien sûr, il ne s'agit pas de dire que c'est facile. Or, aux États-Unis, on l'a vu, tous les pouvoirs, le pouvoir central comme les pouvoirs locaux, sont les instruments dociles des volontés de la majorité. Donc les conséquences de cette omnipotence sont redoutables sur la vie intellectuelle. Et d'ailleurs, Tocqueville écrit, c'est dans un extrait ici, enfin c'est dans la phrase, elle se trouve dans un de ses textes, mais je lis rapidement. « En Amérique, dit Tocqueville, la majorité trace un cercle formidable autour de la pensée. Hein » c'est un texte qui se trouve d'ailleurs, oui, page 2, en bas à droite. En Amérique, la majorité trace un cercle formidable autour de la pensée. Alors ça, c'est aussi une très belle formule. C'est-à-dire que la démocratie américaine, bien sûr qu'elle garantit juridiquement la liberté d'opinion. Juridiquement, vous êtes libre. On ne connaît pas de censure légale. Il n'y a pas de censure légale, il n'y a pas de délit d'opinion. Chacun a le droit de s'exprimer librement, sans avoir à craindre la censure, la répression. Et pourtant, Tocqueville écrit, encore une citation qui est toujours dans ses textes, « Je ne connais pas de pays où il règne en général moins d'indépendance d'esprit et de véritable liberté de discussion qu'en Amérique. » Je relis. « Je ne connais pas de pays où il règne en général moins d'indépendance d'esprit et de véritable liberté de discussion qu'en Amérique. » Et comme l'explique Tocqueville avec des formules frappantes, comme vous avez vu, eh bien la tyrannie qui s'exerce dans les républiques démocratiques n'utilise ni chaîne ni bourreau. Elle ne contraint pas les hommes à croire, elle ne menace pas les hommes de périr. Elle exerce une contrainte d'autant plus redoutable qu'elle est invisible, qu'elle est immatérielle. Et s'exerce directement sur l'esprit des hommes. C'est-à-dire autant, si vous voulez, la censure et la persécution exercées dans les états despotiques sont visibles et s'exposent à paraître odieux et avilissants, autant La contrainte exercée par la majorité en démocratie est silencieuse, invisible, parce qu'elle agit de quelle manière ? Elle agit de manière préventive. C'est-à-dire que c'est là la force de la majorité, de la, je dirais, de la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire qu'elle s'exerce au point de naissance de la pensée. Elle s'exerce au point de naissance de la pensée, elle tarit les opinions dissidentes à leur source. Vous voyez, elle tarit les opinions dissidentes à leur source. C'est-à-dire qu'elle ôte à chaque homme le désir d'exprimer une opinion qui s'écarte de ce que pense la majorité. Et là, je pense qu'il faut lire un passage absolument extraordinaire qui se trouve feuille 3, en bas, à gauche. Il compare l'inquisition et la tyrannie d'opinion exercée dans une démocratie comme la démocratie américaine. L'inquisition n'a jamais pu empêcher qu'il ne circulât en Espagne des livres contraires à la religion du plus grand nombre. Alors bien sûr, on prenait des risques, hein. On risquait d'être brûlé. Bon. L'empire de la majorité fait mieux aux États-Unis. Elle a ôté jusqu'à la pensée d'en publier. Et alors, je trouve assez extraordinaire la suite. On rencontre des incrédules en Amérique, mais l'incrédulité n'y trouve, pour ainsi dire, pas d'organe. Alors, je prends cet exemple. Évidemment, je parle ici, l'incrédulité, c'est le fait d'être incroyant, hein, je pense. Eh bien, il n'est pas interdit d'être athée, d'être incroyant en Amérique. Mais c'est inconvenant, il est inconvenant de le déclarer. C'est-à-dire que cela paraît tellement choquant qu'on ne trouvera aucun organe de presse, par exemple, pour exprimer publiquement ce genre d'opinion. C'est ça qui a frappé Tocqueville. Ainsi, vous voyez, en démocratie, il n'est pas nécessaire de persécuter, il suffit de laisser jouer silencieusement le mécanisme invisible d'asservissement par lequel chacun va se soumettre de lui-même à l'opinion majoritaire. Et comme le dit Tocqueville, alors encore une belle formule, vous allez voir, l'opinion majoritaire règne en maître. Elle règne en maître. Mais ici, prenons au sérieux ce terme de maître. Ici, il ne s'agit pas d'un maître distinct de ses esclaves. Il ne s'agit pas d'un maître qui impose sa volonté par la violence à des esclaves. Il s'agit d'un maître logé à l'intérieur de la conscience de chacun. Un maître logé à l'intérieur de la conscience des hommes. Et ce maître commande à chacun des hommes, à chaque homme, d'inhiber toute forme de pensée dissidente. Toute forme de pensée qui s'écarterait de l'opinion majoritaire. Alors, voyez par exemple cette formule étonnante. Juste après le passage que j'ai souligné en haut, toujours page 3, vous voyez, que j'ai lu tout à l'heure, il y a un passage que j'ai lu, et puis après, il y a juste un petit point où je n'ai pas souligné, puis ça reprend après. Bon. Le maître n'y dit plus. Le maître n'y dit plus. Vous penserez comme moi ou vous mourrez. Ça, c'est la figure traditionnelle de la tyrannie. Hein. Le maître n'y dit plus. Vous penserez comme moi ou vous mourrez. Il dit, vous êtes libre de ne point penser ainsi que moi. Votre vie vaut bien, tout vous reste. Mais de ce jour, vous êtes un étranger parmi nous. Mais de ce jour, vous êtes un étranger parmi nous. Vous voyez ? Ici, voilà ce qui est très remarquable. C'est-à-dire que l'opinion majoritaire devient en démocratie l'objet d'une nouvelle religion. Elle devient l'objet d'une nouvelle religion. Elle est la vérité révélée à laquelle chacun est tenu de croire. Et tout homme qui s'écarte de la vérité, tout homme qui s'écarte de l'opinion majoritaire, eh bien, est condamné à devenir étranger, étranger à la société, de manière analogue à l'hérétique qui était excommunié par l'Église. Vous voyez, cette analogie est tout à fait valable. C'est-à-dire comme l'hérétique, l'homme qui exprime en démocratie une opinion dissidente risque d'être tenu par ses semblables comme un être impur, c'est ce qu'il dit plus loin, qu'il ne faut pas approcher, sous peine d'être contaminé. Je cite encore un passage, si vous voulez. Quand vous vous approchez de vos semblables, ils vous fuiront comme un être impur. Donc, vous voyez, alors évidemment, ici, l'analogie avec l'hérésie, j'ai bientôt terminé. L'analogie avec l'hérésie a cependant des limites, hein, Parce que dans une démocratie, il n'y a pas d'église. Il n'y a personne pour prononcer une excommunication. Il n'y a personne. Justement, plus efficace que toute inquisition, c'est le conformisme. C'est le conformisme qui exerce ici une censure et qui condamne toute dissidence. Et ce conformisme, c'est personne en particulier. Si vous voulez, c'est tout le monde, si vous voulez. C'est personne à la fois. Donc jamais un pouvoir despotique ne peut être aussi efficace que la démocratie pour censurer une opinion. Et contrairement à la démocratie, un pouvoir despotique n'étouffe jamais complètement l'esprit critique. Vous voyez, par exemple, encore un exemple que cite Tocqueville, dans une monarchie absolue comme celle de Louis XIV, eh bien, il y avait des La Bruyère, il y avait des Molière, qui n'hésitaient pas à peindre le ridicule des courtisans, qui faisaient parfois preuve d'insolence, prenaient quelques risques parfois. Eh bien, une telle insolence devient quasi inconcevable dans la démocratie. Ou alors, vous me direz, ben non, il y a des humoristes, ils sont impertinents. Mais en fait, c'est une impertinence tout de même assez convenue, souvent. Donc l'esprit critique est assez absent. Et, paradoxe, ce qui règne dans la démocratie, c'est un véritable esprit de cour. C'est un esprit de cour bien plus étendu que celui qui régnait à la cour de Versailles. Je cite une formule de Tocqueville. Les républiques démocratiques mettent l'esprit de cour à la portée du plus grand nombre et le font pénétrer dans toutes les classes à la fois. Eh bien, voyez que le conformisme des républiques démocratiques transforme les individus en courtisans de l'opinion majoritaire. Ils la flattent, ils ont peur de lui déplaire. On a une sorte d'esprit un peu grégaire, si vous voulez. Même l'humour devient grégaire. Et Tocqueville écrit encore, voyez, la majorité vit dans une perpétuelle adoration d'elle-même. C'est-à-dire que tout se passe comme si la majorité était en effet dans une adoration narcissique d'elle-même qui ne supporte ni la différence ni la contradiction. Et l'infaillibilité, voyez, accordée à l'opinion majoritaire, évidemment, va se payer très cher. Elle va inhiber la pensée, elle va supprimer toute forme d'originalité, elle va éliminer, de manière évidemment souple, et silencieuse, la minorité de ceux qui lui résistent. Et donc on ne peut pas s'étonner dès lors que la démocratie étouffe la création intellectuelle. L'écrivain qui sort des limites de l'opinion majoritaire, bien, il est discrédité, c'est-à-dire que ce qu'il publie ne fait l'objet d'aucune publicité. Il est ignoré, vous voyez. Alors, je pourrais vous montrer, mais je ne vais pas le faire parce que là, j'aurais voulu, mais peut-être dans la discussion je le ferai, vous parler de ce que dit Hannah Arendt, qui pour moi est une lectrice tout à fait intéressante de Tocqueville lorsqu'elle réfléchit sur la société moderne et notamment sur la crise de l'éducation moderne. Et je pense que ce qu'elle dit, ce qu'elle montre, eh bien c'est vraiment, alors à peu de choses près, l'application de ce que dit Tocqueville sur l'extension du principe d'égalité des conditions et les conséquences que ce principe peut avoir lorsqu'il est appliqué, par exemple, à la question de l'école. C'est vraiment remarquable. Et bon, mais je ne vais même pas prolonger. Je vous écoute. Voilà. C'est un petit peu plus long que d'habitude, et là, je m'en excuse. Donc, je voudrais... Oui.
Il a beau être... Il a tourné la page de l'Ancien Régime, on a bien compris.
Oui.
Mais enfin, il fait une critique quand même assez...
Totalement.
Terrible de la démocratie.
Oui.
Donc, alors, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on ne va pas aborder ce soir...
Oui. Alors, je vous dirais, si vous êtes adhérent, qu'il y a 3 ans, nous avons consacré une année entière à la lecture de la démocratie en Amérique. Donc, vous pouvez trouver des enregistrements où il est question justement des solutions de Tocqueville. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas parler de tout. Vous voyez bien, c'est le vrai problème. Alors bon, on imagine. Je vous laisse imaginer. Je vous laisse sur votre faim pour que vous poursuiviez vous-même la lecture.
Est-ce qu'on peut pas quand même essayer de sauver l'idée de la démocratie en disant que finalement c'est un pari fantastique et presque utopique effectivement sur la qualité des individus à s'élever suffisamment pour intégrer les dangers que Tocqueville a soulevés?
Ah, totalement. Mais Tocqueville est je dirais, il n'est pas... Enfin, je dirais même, je vais oser un paradoxe. La démocratie, c'est un régime qui ne vaut que par la critique qu'elle fait d'elle-même. Voilà. C'est-à-dire que si elle sombre dans une sorte d'auto-glorification, alors là, ça devient dangereux. C'est au fond un peu le sens du message de Tocqueville. Il n'a aucun regret du régime ancien, même si bien sûr il est issu d'une famille noble. Et il sait vraiment qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. Et ce n'est pas une pause. Hein. Donc, si vous voulez, effectivement, par contre, il ne tombe pas dans une sorte d'admiration béate, a priori, de la démocratie. Il sait que c'est un régime nouveau, qui va s'imposer partout, bon, et qui va engendrer, effectivement, un certain nombre de défauts, qui peuvent être, d'ailleurs, très graves. Hein. Parce que, je dirais, vous voyez, c'est... Mais c'est vrai que, au fond, la meilleure façon de lutter contre cette pathologie de la démocratie, c'est plus de démocratie. C'est-à-dire, en fait, c'est de faire en sorte que les hommes s'organisent, inventent des institutions pour lutter contre cette espèce... je dirais, de danger que constituent l'effet de masse, quoi. Hein, c'est-à-dire, c'est ça le danger, c'est ça le danger.
Un pari sur l'individu, en fait.
Ah oui, tout à fait. Mais le danger vient de l'individualisme.
Oui.
C'est-à-dire, l'individualisme, c'est ça l'ennemi de l'individu. C'est-à-dire que l'individualisme, c'est le repli sur soi, où finalement, on finit par ne plus participer à la vie politique, on cultive son petit jardin privé, voyez. Et on se désintéresse de la question du bien public, on se laisse administrer. On râle de temps en temps, mais ça ne va pas plus loin. Vous voyez ? Et donc, effectivement, ça, c'est, je dirais, la démocratie telle qu'elle se présente souvent. Hein ? Et donc, évidemment, ça, c'est sa mort et c'est lourd de danger. Hein.
Alors, justement, dans les pages que vous avez citées, là, on ne parle pas de ça.
Non. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai centré notre réflexion, parce qu'au fond, la question, notre thème, c'est la tolérance. Donc, si vous voulez, j'ai voulu, évidemment, et je ne voulais pas le faire trop rapidement et de manière superficielle, je voulais vraiment vous montrer, je dirais, la force des analyses de Tocqueville quand il a réfléchi à cette fameuse tyrannie de la majorité. Hein. Bon, mais bon, l'aspect, ou alors vous... m'écouter 2 heures de suite, en plus, mais je crois pas que c'est possible, et puis ce serait un peu fatigant. Vous voyez, c'est vrai que là, je ne peux pas envisager ces solutions. Vous avez peut-être une idée, tout de même, déjà, de ce que Tocqueville envisage lorsqu'il parle de la démocratie communale. Au fond, la démocratie, c'est ça. C'est d'abord là qu'elle se passe. C'est la commune.
Oui, alors avec quand même la différence que là, on parlerait plutôt de démocratie participative.
Oui, mais oui, enfin, je me méfie un peu du mot participatif, parce que si c'est... parce que, bon, ça peut donner lieu à des campagnes de communication. C'est-à-dire qu'on fait, oui, la participation, on fait croire qu'il y a plein de gens dans une salle, et puis, en fait, dans la pratique, c'est toujours, effectivement, la même chose qui se produit.
Effectivement, mais je la mets en opposition à la démocratie représentative.
Et en même temps, la démocratie représentative, si vous voulez, quand il en parle, il montre que, effectivement, le malaise, le mal de la démocratie, c'est lorsque le représentant se coupe totalement des représentés. Et finalement, fonctionne comme s'il était au-dessus. Et comme s'il n'avait pas de mandat, finalement. Hein. C'est bien le danger. À ce moment-là, il y a détournement de la volonté du peuple. Hein. Effectivement, ici, évidemment, les conséquences, c'est la dépolitisation. Effectivement, le drame des démocraties modernes, c'est la dépolitisation. C'est la transformation de la politique en spectacle médiatique. Et c'est, au fond, l'idée aussi que la démocratie, ben, c'est l'affaire de quelques experts. Alors, on se plaint du peuple, on voudrait le changer de temps en temps, parce que vraiment, il ne comprend rien. Mais, vous voyez, ça devient l'affaire des experts. Hein, vous voyez, c'est confisqué, le pouvoir est confisqué par des experts qui, eux, savent, qui sont intelligents. Parce que le bas peuple ne sait rien, il ne comprend rien. Donc là, effectivement, c'est ce que nous vivons. Et c'est dangereux, d'ailleurs. très, très, très dangereux, parce que cette dévitalisation de la démocratie, cette dépréciation, eh bien, elle laisse le champ libre à des choses qui sont beaucoup plus funestes.
Les responsabilités sont partagées, hein, pas seulement pas nos représentants seulement.
Ah oui, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, on voit bien quand même que, disons, un certain nombre de hauts responsables, experts, etc., considèrent que il faut être tout de même intelligent comme eux pour organiser les choses et prendre des grandes décisions. Et puis, si le peuple n'est pas à même de comprendre, s'il n'a pas été bien informé, il va falloir lancer une campagne de communication. On va lui expliquer. Vous voyez, on va faire de la pédagogie. Vous voyez, bon, c'est vieux, hein, mais ça, non, c'est vieux, ça, hein. On connaît la musique, hein. Donc effectivement, la démocratie, c'est vrai que pour Tocqueville, et d'ailleurs il était député, hein, de Valognes, il a, bon, alors, il a tout de même été député républicain, hein. Bon, et il faisait disparaître, c'est-à-dire son titre de, je crois qu'il était comte ou de vicomte, je ne sais plus, et donc lui-même, effectivement, a participé à la vie politique. Bon, tout n'est pas toujours clair dans les positions de Tocqueville. Hein. Faut pas non plus l'idéaliser. Hein. Y a parfois dans sa pratique, notamment concernant la question d'Algérie, des discours qui sont en contradiction avec ce qu'il a pu dire dans la démocratie en Amérique. Bon, mais je ferme ma parenthèse. Ce qui est vrai, c'est que, oui, pour lui, tout de même, la démocratie, vous voyez, c'est un libéral, mais quand on dit libéral, on pense souvent à ce grand philosophe français qui s'appelait Benjamin Constant, qui faisait la distinction entre la liberté des modernes et la liberté des anciens. Et la liberté des anciens, c'était la liberté, au fond, de participer à la vie politique. Bon, sauf que chez les anciens, c'était une élite. Hein, la démocratie, c'était pas l'affaire de tous. Hein, c'était simplement un nombre limité de citoyens, hein, qui participaient à la vie politique. Bon. Mais la liberté des modernes, c'est la liberté, au fond, de jouir de ses droits en privé, la vie privée, quoi, hein, si vous voulez. Et donc, il montre, il fait cette distinction, cette séparation. Et au fond, d'une certaine façon, un certain type de libéralisme encourage, au fond, une sorte de séparation entre la vie privée et la vie publique. Et je dirais qu'il met en avant la nécessité, au fond, que l'État, simplement, protège les individus, et puis point barre. Vous voyez, c'est qu'il voilà, et puis que la vie politique doit s'arrêter là, essentiellement. C'est pas du tout la position de Tocqueville. C'est un libéral, oui, c'est vrai, mais il n'est pas du tout, je dirais, favorable à une conception purement individualiste, si vous voulez, de la société. Il est essentiel pour lui que les hommes participent à la vie politique. Et donc à tous les niveaux. Il faut que le pouvoir... Et c'est vrai que, vous voyez, il dit très très fermement que la démocratie, bien sûr, c'est le désordre souvent, parfois c'est un peu la pagaille, des décisions qui se contredisent. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours... Hein, bon, il y a des débats, vous voyez, ça s'engueule. C'est parfois pas toujours bien cohérent. Mais l'essentiel, c'est que les hommes participent. Et si on veut qu'ils deviennent responsables, il faut qu'ils participent. C'est-à-dire qu'au fond, je dirais que le souci de Tocqueville, c'est de faire en sorte que les hommes s'élèvent par la politique, s'aristocratisent, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Vous voyez ? En même temps, il réinjecte de l'aristocratie dans la démocratie. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, une sorte de... Il faut que la démocratie ne s'avachisse pas. Il faut que les hommes puissent effectivement s'élever. Et ils s'élèveront en, je dirais... par la vie communale, par la démocratie communale, ils s'élèveront par la participation à des associations, par l'expression publique, la presse, etc., etc. Ça, c'est fondamental. Aussi par le jury. Il accorde beaucoup, c'est un juriste, hein, au départ, beaucoup d'importance, je dirais, à la question de la justice. Il y a des réflexions sur... justement, bon, qui sont toujours célèbres, hein, de Tocqueville sur l'institution judiciaire américaine, hein, et sur le rôle du juge américain, qui sont extrêmement importantes. Oui.
Oui, je voudrais savoir quel regard portait justement Tocqueville sur la minorité, sur l'équilibre qui pouvait exister entre une majorité agissante, celle qui pouvait devient tyrannique, et une minorité qui devait être en contre-pouvoir, simplement d'attendre qu'elle devienne elle-même une majorité.
Ben, pour que cette minorité se constitue et fasse valoir son opinion, il faut qu'elle, je dirais, qu'elle constitue une association, un groupe, quelque chose. Enfin, il faut qu'elle donne corps, hein, à ça. Sinon, bah, effectivement, cette minorité, elle ne peut pas faire contrepoids. C'est la seule manière pour elle, en quelque sorte, de peser.
Hein?
Oui.
Par exemple, il peut y avoir la puissance de la presse. Il suffit qu'il y ait un ou deux journalistes.
Par exemple.
Qui se mettent en pointe sur une
par exemple. Mais à condition que la presse soit vraiment libre aussi, hein, c'est le problème. Qu'elle ne soit pas dans les mains de quelques... Bon, c'est un fait. On est bien d'accord, parce que bon, on peut être théorique, la liberté de la presse. Il faut vraiment qu'elle soit réellement assurée. Bon, mais bien sûr, ça, il accorde beaucoup d'importance aussi à cette question. Hein, là-dessus. Alors, là, je vous ai donné l'impression que, au fond, tout était noir dans la démocratie. Ben oui, puisque, en fait, j'ai insisté sur ce mécanisme de la tyrannie de la majorité. Mais enfin, attendez, je n'ai ici, j'ai centré notre réflexion essentiellement sur la pathologie de la démocratie. Ça ne veut pas dire que la démocratie est inévitablement condamnée à sombrer là-dedans. Mais bon, en même temps, il faut bien reconnaître que c'est un danger qui la guette constamment. Voilà, ça c'est le diagnostic de Tocqueville. Oui.
Je suis un peu perdue par rapport aux dates de l'histoire. Donc 1830, vous avez dit, au moment où il va aux États-Unis.
Un peu plus tard.
C'est après la guerre d'indépendance, mais c'est avant la guerre de sécession.
Donc oui.
C'est bien avant la problématique noire. Donc, le problème
ah,
noir,
ben, les Noirs. Alors, parlons-en. Alors là, c'est là, les plus belles pages de Tocqueville, mais ça évidemment c'est une question qu'on n'aura pas abordée, parce qu'on ne peut pas tout aborder. Elle est consacrée à la question des Noirs et des Indiens. C'est-à-dire que la démocratie en Amérique, ce n'est pas la démocratie pour tout le monde. Il y a des hommes sans droit, qui ne font pas partie de la nation, qui sont exclus. Et il y consacre des pages extraordinaires. Ils sont vraiment magnifiques. Une réflexion vraiment extraordinaire sur la question. Bon, là encore, on y avait consacré du temps il y a 2-3 ans. Et vraiment, je les recommande. Hein? Mais voyez, quand il parle de la démocratie en Amérique, c'est pas la démocratie pour tous. C'est la démocratie uniquement pour les blancs américains.
Les Indiens aussi.
Et les Indiens, ils sont en dehors. Non, je parle des Indiens et des Noirs. Ils sont en dehors. De toute façon, les Indiens, ils montrent comment les Indiens sont progressivement, finalement, mis en distinction, en quelque sorte. Il y a des astuces pour le faire. Il n'y a pas besoin de les massacrer. Il y a des tas de choses qu'on peut faire légalement pour les faire disparaître, gentiment. Et ça, c'est assez remarquable. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment... Alors, c'est dans le premier tome. Hein, vous avez vraiment un très long chapitre sur ces questions. Oui.
Pour justement élever l'esprit de l'homme et développer l'esprit critique, il faut développer l'éducation.
Oui.
Et l'éducation dès le plus jeune âge.
Oui.
Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à avoir un esprit
oui.
constructif.
Alors, je vais vous répondre. D'abord, quand Tocqueville parle des jurys, quand il parle de la démocratie communale, il montre que c'est là une forme d'éducation. Il insiste là-dessus. C'est-à-dire que, au fond, le citoyen, il apprend à exercer des responsabilités. Il prend conscience des problèmes qui se posent. C'est très, très important. Concernant la question de l'éducation, parlons des enfants. J'allais vous parler de ce fameux article d'Anna Arendt, écrit dans les années 60 aux États-Unis, où Anna Arendt reprend, mais vraiment, en large partie, les analyses de Tocqueville. Et qu'est-ce qu'elle montre? C'est assez étonnant d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'elle montre dans cet article très simplement que il y a une crise moderne de l'éducation qui vient de commencer aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Il y a une série de réformes dans le système scolaire qui, selon elle, ont des effets catastrophiques. Et elle dit, mais ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, attention, ça risque d'arriver dans les autres nations. Elle le dit. Alors, pourquoi ça commence aux États-Unis? Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est le pays qui, dont le principe, c'est le principe générateur, hein, la nation a pour principe générateur l'égalité des conditions. C'est-à-dire que le principe d'égalité des conditions, il est ce principe qui fait que toute forme de hiérarchie, la hiérarchie parent-enfant, la hiérarchie professeur-élève, toutes les formes de hiérarchie, d'une certaine façon, sont, je dirais, plus ou moins condamnées à être remises en question. Et donc, dans les réformes du système scolaire américain, il y a une idée de base qui est mise en avant. C'est l'idée selon laquelle les enfants constituent un groupe autonome, et qu'il faut d'une certaine façon que l'autorité de l'adulte, du professeur, s'efface. Qu'il faut en finir avec cette relation verticale, cette relation hiérarchique traditionnelle, où il y a quelqu'un qui transmet, hein, et au fond, il faut que les enfants construisent eux-mêmes leur propre savoir, etc. Mais exactement tout ce qu'on entend aujourd'hui, hein, exactement ça. Et elle montre, surtout l'idée de base, c'est que les enfants, ils vont en quelque sorte former dans leur école une petite république. Ils vont s'organiser eux-mêmes, ils vont se gouverner eux-mêmes. Il faut les laisser se gouverner eux-mêmes. Et au fond, le seul rôle que les adultes aient à jouer, c'est de les assister, c'est de les accompagner, vous voyez, dans cette démarche. C'est-à-dire que c'est les enfants qui vont se construire. Vous voyez ? Et donc, qu'est-ce que dit Hannah Arendt ? Elle dit, bon, d'accord, l'autorité des adultes, elle peut parfois être tyrannique, on est d'accord. Mais la suppression, l'effacement de l'autorité de l'adulte, eh bien, est remplacée par une nouvelle forme d'autorité beaucoup plus dangereuse, qui est la tyrannie de la majorité du groupe. C'est-à-dire que l'enfant, dès le plus jeune âge, est livré à la tyrannie de la majorité. Elle reprend l'expression. C'est-à-dire qu'il est extrêmement dangereux, selon elle, et là, elle suit Tocqueville, de faire en sorte que les enfants soient exposés dès leur plus jeune âge à une sorte de vie démocratique, où finalement règne une sorte de loi de la majorité, où effectivement il faut éviter de déplaire à cette loi de la majorité, parce que c'est le meilleur moyen d'étouffer toute pensée critique, toute autonomie individuelle. Il y a une sorte de tyrannie de la majorité qui risque d'étouffer, justement, au contraire, l'individu. Alors évidemment, toutes ces idées se prétendent généreuses, novatrices, parce que finalement, il y a une sorte de culte de la nouveauté. Toute forme de tradition et de transmission doit être remise en cause, puisque finalement, encore une fois, selon le principe d'égalité des conditions, tout ce qui est de l'ordre d'une tradition est de l'ordre d'une influence, finalement, discutable, hein. Donc, c'est au nom de l'avenir, c'est au nom de la nouveauté, ce qu'il faut à tout prix, on met l'accent sur la nouveauté dans ce nouveau système. C'est au nom de l'égalité aussi. Il faut l'égalité, la nouveauté, que l'on va mettre en place donc un nouveau système d'éducation que, évidemment, Hannah Arendt estime catastrophique. Totalement catastrophique, parce qu'il risque d'étouffer toute pensée critique. Et évidemment, ceux qui mettent ça en place prétendent que c'est généreux et que c'est ça qui va émanciper l'enfant. Mais elle dit que c'est exactement le contraire qui va se produire. Et là, vous avez, donc, j'ai des pages, là, je reviendrai là-dessus, si vous voulez, par Internet, qui sont vraiment très intéressantes sur la question. Vous voyez, donc, l'éducation, oui, mais comment ? Est-ce que, aujourd'hui, par exemple, l'idée d'une transmission est de plus en plus remise en cause. Hein ? Vous voyez ? Transmission, ça veut dire subir l'influence d'une autorité personnelle. Voilà. Et ça, c'est une idée qui est remise en cause dans beaucoup de théories nouvelles de l'éducation. Est-ce que vous avez une question encore ? Juste pour vous répondre, mais... Oui, encore une. Oui.
Je pense qu'il devait être indépendant, que lui, dans sa boîte de commandité, son rapport.
Son rapport, alors, je vais vous expliquer. En fait, il s'est trouvé, bon, alors, c'est un peu long à expliquer, mais il a été, il y a eu un changement de régime politique. Il s'est trouvé sur la touche. Il était juge. Puis avec un ami, il a décidé, bon, de partir. En plus, il avait des histoires avec sa famille. Il ne le désavouait. Il est parti aux États-Unis parce qu'il avait envie d'y partir. Et puis, il a eu une mission à faire. Enfin, mais c'est lui qui a financé son propre voyage. Il a préparé tout. Hein. Bon, en fait, c'était quelqu'un qui, si vous voulez, qui s'ennuyait dans ses fonctions de juge, de juriste. Hein. Il avait envie de réfléchir, de comprendre. Donc, il a commencé à travailler déjà avant de partir. Il a vraiment fait tout un questionnaire. Puis alors, il a fait un voyage de 8 mois. En fait, sa mission officielle, c'était d'étudier le système pénitentiaire américain. Alors, il a remis un rapport. Mais alors, qui est assez intéressant. Mais bon, c'est pas limité à ça. Je pense que, à moins qu'il y ait une dernière question, on peut pouvoir arrêter là.